partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio IDFM 98 ou 98.fr. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, vendredi 17 juin, au programme de l'économie en direct, en vue du deuxième tour des élections législatives, nouveau brief de campagne pour la première circonscription du Val d'Oise. Puis nous parlerons finances locales, engagement politique et bilan des jokers de Cergy, l'équipe montante de hockey sur glace du Val d'Oise. Pour ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir en direct dans nos studios déjà deux invités, puisque notre troisième invité est en route vers la radio. Donc j'invite, j'accueille tout de suite Bertrand Dufoyer. Bonjour Bertrand. Merci de nous accompagner en direct dans l'émission. Bertrand, vous êtes consultant en management de transition dans l'actuariat. Vous êtes depuis 2020 adjoint au maire de Deuil-la-Barre, section finances et affaires scolaires, et depuis 2014 conseiller délégué et conseiller communautaire. Engagé politiquement, nous ferons avec vous un tour d'horizon. J'ai pas pu résister. Des sujets qui vous tiennent à cœur. À vos côtés, Christophe Cuzin. Bonjour Christophe.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous accueillir, Christophe Cuzin. Vous êtes le dirigeant du club sportif de hockey sur glace, les Jokers, hockey club de Cergy-Pontoise, une équipe montante qui a eu cette année qui est riche en succès. Vous nous raconterez tous les exploits de cette équipe dans quelques instants.
Avec grand plaisir.
Bienvenue à tous les deux. Ma troisième invitée est Émilie Chandler, avocate en droit de la santé et du dommage corporel depuis 12 ans, candidate officielle de la majorité présidentielle et qualifiée au deuxième tour des législatives dans la première circonscription du Val d'Oise. Voilà, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure quand elle sera avec nous. Alors juste avant de vous donner la parole, parce que IDFM Radio est un média de proximité, je voulais un communiqué de presse pour une action en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Pour la 20e année consécutive, le Rotary Club de Pontoise organise sa grande compétition de cartes sur le circuit du RKC de Cormeil en Vexin en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. Aujourd'hui, 17 juin 2022, 30 à 35 équipes se disputeront à partir de 14h le magnifique trophée Paul Parcillier. Une course d'endurance qui se déroulera sur plusieurs manches de 14h à 23h. Vous avez donc encore tout le temps d'aller soutenir ces équipes avec des challenges ados, kids et bien sûr adultes. Un stand restauration fonctionnera pendant toute la compétition. Pour tous les détails supplémentaires, je vous invite à aller sur le site Trophée Karting Paul Parcillier 2022 du Rotary Club de Pontoise. Et donc, tout de suite, comme promis, je m'adresse à vous, Bertrand Dufoyer. Donc Bertrand, j'ai eu le plaisir de vous accueillir déjà cette année au mois de mars. Et la première question que je voudrais vous poser tout de suite, c'est que vous nous aviez confié en mars que vous aviez votre envie de rejoindre le conseil municipal avait été suscitée suite à un litige que vous aviez dans votre rue. Mais vous ne nous avez pas donné le résultat de l'issue de ce litige.
Ce n'est pas un litige dans ma rue.
Alors expliquez-nous.
C'est tout simplement qu'en 2012, je me suis engagé auprès de l'association SOS Vallée Maman Psy pour on va dire contredire le projet du boulevard du Parisis.
Ah oui.
Et dans ce cadre-là, j'ai mené un certain nombre d'actions, donc notamment toutes les réunions de concertation qui ont eu lieu, dans lesquelles j'ai avancé un certain nombre de difficultés par rapport à cette avenue, notamment à l'époque, je défendais le fait que la pollution de proximité était importante et que tout simplement ce type d'infrastructure exigeait que il n'y ait pas d'habitants à 150 mètres de part et d'autre, un minimum de l'avenue. Voilà, on a travaillé aussi avec l'un des premiers comités local avec Monsieur Chabanel à l'époque, qui aujourd'hui est adjoint au maire à Deuil,
oui.
pour faire un mémoire. Donc en fait, j'ai créé une association aussi à ce moment-là. Et je dois dire que c'est assez rare qu'une personne physique soit nommée par un rapporteur dans une concertation nationale, et ce fut le cas.
D'accord.
Voilà, donc c'est vrai que ça me donne l'occasion aussi de dire que, notamment, on a l'impression que tout viendrait d'un certain groupe de personnes, et en l'occurrence, ce n'est pas tout
c'est
à fait exact.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Je trouvais important qu'on fasse cette précision. Alors, Bertrand Dufoyer, votre rôle d'adjoint au maire de Deuil-la-Barre, section finances et affaires scolaires, vous permet de faire une analyse de l'impact de la situation économique sur les finances locales. Donc, ben voilà, je vous laisse.
C'est une situation compliquée, Jacqueline. Effectivement, les communes ne sont pas comme les particuliers soumis au bouclier tarifaire, et par conséquent elles subissent des augmentations relativement importantes à la fois dans leurs coûts de fonctionnement et dans leurs coûts d'investissement. De fait, la réflexion qui se pose aujourd'hui est de trouver des nouveaux modes de financement, et ça c'est assez compliqué au regard des enjeux, et notamment le fait que l'inflation touche aussi les plus démunis d'entre nous. Donc je pense que dans les mois à venir et dans les semaines à venir, les communes vont devoir effectivement revoir leurs tarifs et considérer une répartition peut-être un petit peu différente, c'est-à-dire considérer que il faut assumer un certain nombre de services essentiels, et il faut continuer à le faire à un tarif qui soit raisonnable, et toute la difficulté va être de déterminer le curseur de ce qui est raisonnable. Pour votre information, sur la commune de Deuil, le coût de la cantine représente à peu près 40 à 50% du coût complet que paye la commune.
Oui.
Donc on a une situation d'antériorité, si vous voulez. Alors que vous voyez, j'avais une présentation des différents syndicats des eaux qui, eux, se financent sur le mètre cube d'eau consommé, et donc sont en relation directe sans avoir ces problématiques. Donc je pense qu'il va falloir soutenir les collectivités territoriales, et j'invite le gouvernement et les éventuels députés à considérer que notamment dans l'accompagnement de la difficulté de se protéger contre l'inflation, de protéger un certain nombre de populations contre l'inflation, on peut aussi travailler au niveau des CCAS sur ces problématiques-là pour justement préserver les plus faibles d'entre nous. Ça permet de cibler directement les populations, de les accompagner dans l'intégralité de la procédure, si vous voulez, à la fois d'un point de vue énergétique et d'un point de vue de consommation courante. Et tous les dispositifs existent déjà de relations entre l'État et les CCAS, justement pour que les subventions puissent parvenir directement via les collectivités territoriales à ceux qui en ont le plus besoin.
Oui, les On voit bien dans la campagne là pour les législatives que les priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat, bon, l'emploi et la sécurité. Je pense que Madame Chandler va nous en parler. Mais comment donc, et j'imagine que le gouvernement va entendre votre votre réclamation.
Ah, je ne sais pas s'il
enfin,
va l'entendre.
Pas la vôtre personnellement, oui, mais en tout cas sur l'ensemble.
Ça reste une proposition, mais finalement cette proposition, elle dit quoi? Elle dit, il existe des mécanismes aujourd'hui qui sont déjà en place, qui permettent de sécuriser ce genre de dispositif et d'assurer aussi que la dépense de l'État va bien aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc voilà, donc le message, c'est plutôt de dire que la nation, elle est constituée de plusieurs du millefeuille territorial, mais que ça peut aussi avoir un sens de temps en temps de l'utiliser.
Bien sûr, bien sûr. Vous vouliez aussi parler, donc vous parlez de cette pression sur les tarifs, et puis je crois que vous avez aussi quelque chose à dire au niveau de la fiscalité.
Oui, effectivement. Bah, écoutez, j'en parlerai avec le futur député, la future députée de la 6e circonscription. Effectivement, il y a aujourd'hui une bombe à retardement auprès des collectivités territoriales qui est la conséquence de la suppression de la taxe d'habitation, puisque, en fait, le montant de la taxe d'habitation permet de calculer un certain nombre de dispositifs de subvention auprès des collectivités territoriales et que ça va complètement modifié un certain nombre d'entre elles. On a deux cabinets spécialisés, si vous voulez, en finances locales, et ces deux cabinets ont alerté à la fin de l'année dernière sur les conséquences importantes de disparités que cela pouvait faire entre les communes.
Oui. Donc, votre participation à la vie de la société vous a amené aussi, Bertrand Dufoyer, à vous engager politiquement, où vous aviez déjà cet engagement avant de rejoindre le conseil municipal de Deuil-la-Barre.
Alors non, j'avais comme tout à chacun mes opinions politiques. Je me suis effectivement engagé auprès des Républicains pendant le mandat 2014-2020. Et puis j'ai décidé fin d'année dernière, et je l'ai officialisé au mois de mars, un peu après notre émission d'ailleurs, d'une démission des Républicains jusqu'en 2019-2020. J'exerçais le rôle de trésorier pour la Fédération 95. J'ai souhaité effectivement quitter ce parti, mais quelque part, quitter une organisation, c'est une chose. Garder des liens avec les personnes qui composent cette organisation et toute la qualité de la réflexion qu'il peut y avoir chez certains d'entre eux, c'est pas facile à dire. C'est aussi quelque chose qui est pas forcément simple à gérer quand on a fait un bout de chemin ensemble.
Bien sûr. Bon, je vous propose de faire une pause et puis on saura après vers quel engagement vous vous êtes dirigé, Bertrand Dufoyer. À tout de suite.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Was right. Feeling like a bullet hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
I got this feeling that you know where I'm losing all control. Is this magic in my bones? My body, I got this feeling.
mind, turning the pages of my life, walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared, picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this
Bones par Imagine Dragons, c'est l'économie en direct. Merci d'être resté avec nous. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Ma troisième invitée est arrivée, donc nous allons la saluer, la présenter, la saluer. Bonjour Émilie Chandler.
Bonjour.
Bonjour. Donc Émilie, j'ai dit en préambule que vous étiez avocate, alors attendez, je retrouve ma page. Avocate en droit de la santé et du dommage corporel depuis 12 ans. Vous êtes la candidate officielle de la majorité présidentielle, qualifiée au deuxième tour des législatives 2022 dans la première circonscription du Val d'Oise qui regroupe l'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marine, Pontoise. Votre suppléant est Monsieur François Ernst. Et à deux jours du vote, du second tour, vous nous expliquerez le pourquoi de votre candidature et vos arguments pour convaincre les électeurs de votre circonscription à voter pour vous. Voilà, on vous retrouve dans quelques instants, Émilie Chandler. Et à côté de moi, j'ai toujours donc Bertrand Dufoyer, maire adjoint à la ville de Deuil-la-Barre, et Christophe Cusin, dirigeant des Jokers, l'équipe montante de hockey sur glace à Cergy-Pontoise. Bertrand Dufoyer, je reviens vers vous puisque nous avions commencé à évoquer votre engagement politique, votre nouvel engagement politique. Vendredi 13 mai, je recevais Célia Agostini, alors conseillère d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie et à ce titre en charge des relations avec le Parlement et les élus locaux. Alors, pour information, depuis Célia, suite au remaniement, a pris ses fonctions de conseillère politique, toujours en charge des relations avec le Parlement, auprès de Madame Agnès Pannier-Runacher, toujours, elle-même nommée ministre de la Transition énergétique, auprès de la Première ministre Elisabeth Borne. Célia Agostini, qui avait alors évoqué son engagement auprès d'Horizon, et au travers desquels il m'a semblé retrouver des éléments que vous aviez vous-même, Bertrand Dufoyer, développés au mois de mars.
Oui,
est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas, effectivement. Déjà, saluer la nomination de Célia à ce poste qui est même un poste d'importance, et on sait combien elle nous avait démontré que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et ensuite de ça, effectivement, j'ai regardé du côté de l'horizon, comme vous disiez tout à l'heure, mais le sens est assez juste, c'est-à-dire que je me suis posé, j'ai réfléchi à ce qu'était l'action politique, que je dissocie de l'action de l'élu local et de l'exécutif. Il y a plusieurs temps en politique. Il y a le temps court sur lequel on a des difficultés immédiates ou des constats évidents. Il faut une réponse rapide. Mmh. C'est le temps de l'administration, si vous voulez. C'est le temps où l'élu supervise l'administration. Et puis, il y a un temps qui est moyen, qui est celui de la réflexion avec les habitants, de la déclinaison du programme, de poser des diagnostics partagés, de partager avec la population des plans d'action. Typiquement, dans ce genre de choses, on peut voir la gestion urbaine de proximité, par exemple, quelque chose que Madame le maire de Deuil a mis en œuvre récemment, qui est pas un sujet facile parce que, si vous voulez, on n'a pas de réponse immédiate auprès des habitants, mais dans un temps un peu plus long, on va apporter une réponse. Et puis, il y a le temps très long, c'est-à-dire comment on se positionne, comment on positionne notre ville ou notre territoire dans l'avenir, quels sont les difficultés ou les engagements ou les sujets que l'on doit prendre. C'est ce qui va finir par produire un nouveau programme politique. Et tout ça, on le fait en coordination avec nos partenaires, donc le département, la région, l'intercommunalité, l'État via les sénateurs ou les députés, ou de temps en temps, comme j'ai pu le faire l'an dernier, on met le point sur un certain nombre de difficultés pour les communes qui remettent en cause une perspective et donc un point sur l'horizon. Et enfin, pour être complètement complet, au-delà de l'horizon, il faut aussi trouver un cheminement. Et l'essentiel, en fait, de mon point de vue aujourd'hui en politique, ça n'est pas d'apporter des idées. Les partis sont des grands pourvoyeurs d'idées. C'est une excellente chose. Et je pense qu'il faut effectivement se poser des questions sur l'avenir. Mais il faut surtout trouver une démarche et un cheminement. Et ça, c'est quelque chose que porte très, très bien Édouard Philippe. Et donc, d'une manière assez... de similitude, finalement, j'ai porté mon regard, effectivement, et je suis devenu adhérent du parti Horizon.
Très bien. Oui, donc vous dites d'ailleurs, l'horizon c'est bien, mais il y a une infinité de lieux qui forment l'horizon. Et je voudrais préciser, parce que c'est peut-être pas évident à première vue, c'est que ce parti Horizon, en fait, est au pluriel. Il y a un S. Donc d'où peut-être l'idée qu'il y a plusieurs horizons, précisément.
Alors, je pense qu'effectivement, c'est difficile d'interpréter la pensée d'Édouard Philippe, puisque là, on est vraiment dans une conception politique. On est vraiment dans le sens de la réflexion et du devenir, si vous voulez. Et effectivement, ce qui est certain, c'est que même si on fixe un point à l'horizon, il y a certainement différents chemins pour y parvenir, et que l'idée, c'est de prendre le chemin le plus simple, le plus court, le moins difficile, pour aller vers l'objectif.
Bertrand Dufoyer, vous vouliez aussi nous apporter une vision du rôle législatif. Parce que sans dévoiler ce que vous allez nous dire, je crois que pour vous, ce qui compte le plus, c'est avant tout l'humain.
Oui. Alors, c'est une occasion qui m'est proposée et je vous en remercie. Je vais rapidement vous raconter une petite histoire. J'étais avec des amis il y a très longtemps de ça, peut-être pas 20 ans, mais presque, au col d'Icher, et on descendait dans la vallée, et on est arrivé à Lourdios, et là, j'ai rencontré un Béarnais pur souche avec son béret, et un gaillard, hein, vraiment quelqu'un d'imposant. Et on lui a demandé s'il n'y avait pas un café ou un petit établissement pour se rafraîchir. Et cette personne nous a dit que non, nous a dit qu'il était le maire de la commune et que si vraiment on avait besoin de se rafraîchir, il pourrait nous aider. Donc on l'a accompagné dans sa maison. Il nous a servi un verre d'eau fraîche qui était salutaire. Et puis on a discuté un petit peu à cette occasion, mais en bonne intelligence, comme on le fait avec n'importe qui.
Ouais.
Et puis quelques années après, je vois cette personne que j'avais trouvée extrêmement humaine finalement, à l'écoute. Je la vois intervenir dans l'Assemblée nationale, puisque il s'agit de Jean Lassalle. C'était assez curieux, mais en voyant ça, je me suis dit, a posteriori, je me le dis aujourd'hui plutôt, je me suis dit, mais finalement, dans cette Assemblée, j'ai l'impression qu'il y a un ensemble de juristes et qu'il y a peu d'avocats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment des techniciens de la pratique législative, qui sont très bien accompagnés par leurs attachés parlementaires, mais j'ai l'impression qu'il manque de temps en temps un petit peu de verve, un petit peu d'éloquence. Et sans partager le point de vue d'ailleurs de Jean Lassalle, je lui reconnais cette capacité ou cette volonté. Et j'observe que... c'est quand même aussi une stratégie qui se situe de l'autre côté de l'hémicycle. Et si vous écoutez bien les différents passages, enfin en ce moment il y a la campagne électorale, je vous invite à réécouter ce qui est dit et je vous invite à regarder dans quelle partie on prononce le terme « humain ». Et je pense qu'on s'est trop attaché à être dans une technicité aujourd'hui, et on s'est un petit peu détaché du côté humain. Et c'est vrai que nous, les élus locaux, on est confrontés à ces situations humaines au quotidien, encore Encore hier, on est confronté à une famille qui est dans une profonde détresse parce qu'il lui arrive un incident qui est particulier, pour lequel j'ai une pensée sincère. Et donc, quelque part, on se dit, la politique future, l'engagement d'un député, lorsqu'on consulte une loi, c'est très bien de se dire que, effectivement, ça va favoriser telle orientation économique, telle orientation sociale, telle orientation énergétique ou écologique, mais il faut surtout déterminer à qui, pour qui ça sert et quelles sont les personnes qui seront concernées par ça et comment ça les impacte.
Très bien, merci Bertrand Dufoyer. Je crois que vous nous offrez un boulevard là avec Émilie Chandler qui est avocate. Donc je pense qu'elle rebondira tout à l'heure.
Alors je souligne qu'il y a beaucoup d'avocats au sein de l'Assemblée nationale. Je regrette qu'éventuellement il n'y ait pas autant d'économistes. Bon, ça c'est un appel à ma profession qui a peut-être trouvé d'ailleurs plus intéressant ou plus rémunérateur de s'orienter vers certains postes dans le privé.
Vous voudriez réagir tout de suite, Émilie Chandler, ou tout à l'heure?
Je développerai tout à l'heure.
D'accord, très bien.
Mais je répondrai sur le sujet des avocats.
Absolument. Alors, ma dernière question, Bertrand Dufoyer, je vous l'avais posée au mois de mars quand vous étiez venu. Pourquoi ne pas vous être porté candidat à ces législatives?
Ah, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour porter un projet aux législatives, il faut être accompagné, il faut surtout être connu. Donc ma notoriété ne le permettait pas. Et au-delà de ça, transmettre mes idées, mes opinions, ça n'a de sens que s'ils sont entendus et par le plus grand nombre. Donc ça c'est la première difficulté, je pense, et vous l'avez ressenti que. Le rapport entre l'électeur et l'élu passe nécessairement par la confiance et passe par la connaissance et l'anticipation de la part de l'électeur de la manière dont l'élu va se comporter. Et donc je regrette effectivement que l'orientation des partis aujourd'hui ne permette plus de s'orienter vers des personnes et plus vers des structures partisanes. L'autre chose, c'est que j'avais promis, et je ne le regrette pas d'ailleurs, de soutenir Michel Beau, qui est notre premier adjoint. Pour moi, c'est quelqu'un de qualité, et donc je portais assez facilement le projet qu'il puisse devenir député. Malheureusement, les choses sont ainsi. Il est le suppléant d'Estelle Follez, que je connais peu finalement, alors que je connais évidemment très bien Michel. Bon, à cette occasion, j'ai interpellé Horizon et LREM. Concrètement, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Oui. Et quelque part, je me dis que le non-cumul des mandats qui fait qu'aujourd'hui un maire peut pas être député. Fait qu'on s'est orienté vers une forme de professionnalisation et de technicité du pouvoir législatif, alors qu'à côté des maires, il y a aussi des adjoints, et Michel aurait été un très bon député.
Voilà, Michel Beau, qui est dans le supplément d'Estelle Follest pour la 6e circonscription, candidate officielle de la majorité présidentielle.
Exactement.
Et arrivée également qualifiée pour le second tour.
Alors que je soutiens naturellement, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais je pense que les auditeurs auront compris que le sujet qui est aujourd'hui porté par NUPS et par sa candidate sur la 6e circonscription, au-delà des archétypes qui sont dits dans la presse aujourd'hui, le fait que ce parti serait incapable de mener une politique sérieuse pour l'État, surtout je dis aux électeurs, regardez bien vos candidats et choisissez celui en lequel vous avez le plus confiance. Et je pense que naturellement, les Français feront le choix de la raison. Et cette raison s'imposera à moi comme elle s'imposera à tout le monde.
Merci beaucoup Bertrand Dufoyer pour cet exposé complet et intéressant. On
retiendra votre vision du rôle législatif tourné avant tout vers l'humain. Merci à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite après.
Au matin, je me rappelle, je t'ai dit je te rappelle. Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui, j'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer.
Si toi tu te souviens, tant mieux pour toi. Moi je n'ai rien que de blablabla bla bla. C'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me baby, cause I can't remember you. Les souvenirs manquent pas la peine. Les souvenirs, oh toi tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs manqués.
Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit. Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie. Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu. Difficile d'être un étranger à tes yeux. Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi, des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie. De nos gestes et enfin de nos corps en vie. Et du reste, à la fin, j'ai encore envie.
Envie de quoi? Envie de qui? Quelle nuit, comment t'y crois, tout ce que tu disais, si, franchement, j'ai oublié. Les souvenirs manquent à l'appel, les souvenirs, pour toi tu te rappelles, les souvenirs, je n'ai rien inventé, les souvenirs manqués. C'est qui?
Bah, c'est moi, le mec de la soirée.
Alors?
Du coup, on te soit?
Comment?
Oh là, je te dérange.
Je dors.
Ça te dit qu'on allait se revoir?
Mais quand?
Mais tu vois qui je suis ou pas?
Aucune idée.
Mais tu m'avais dit de te rappeler?
Ah bon?
Pourtant, l'autre nuit.
J'ai oublié. Les souvenirs manquent à l'appel. Les souvenirs, pour toi, tu te rappelles.
Souvenir manqué par Grand Corps Malade et Mélodie Gardot. On adore sur Radio IDFM et 98 ou 98.fr. C'est toujours l'économie en direct et je suis toujours en compagnie de Bertrand Dufoyer, consultant en management de transition et actuariat, adjoint au maire de Deuil-la-Barre, section finances et affaires scolaires depuis 2020. Christophe Cusin, dirigeant du club sportif Les Jokers, l'équipe du hockey club de Cergy-Pontoise, une équipe pleine de promesses, et Émilie Chandler, qui est, enfin je sais pas si on dit Chandler ou Chandler.
C'est comme vous voulez, c'est joliment dit aussi.
Oui, merci. Donc Émilie, vous êtes avocate en droit de la santé du dommage corporel depuis 12 ans. Vous êtes la candidate officielle de la majorité présidentielle qualifiée au second tour des législatives 2022 dans la première circonscription du Val d'Oise, donc qui regroupe, je l'ai dit, l'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marine, Pontoise. Rebonjour Émilie Chandler, merci d'être à nos côtés. Alors, votre suppléant, c'est Monsieur François Ernst. Face à vous, la candidate de la coalition NUPES qui a obtenu un score de 28,20%, alors que vous-même, vous avez obtenu un score de 23,78%, c'est-à-dire un écart d'environ 1750 voix, je crois, hein, entre l'une et l'autre.
Tout à fait.
Alors, Émilie Chandler, je voulais, comme nous avons reçu des candidats hein, pendant les deux tours, je précise que pour respecter un temps de parole, vous aurez environ 12 minutes pour vous exprimer.
Aucun problème.
Donc, merci de nous rappeler, Émilie, votre parcours et de nous dire pourquoi cette candidature aujourd'hui.
Alors, je suis Émilie Chandler, j'ai 39 ans, je suis maman d'un petit garçon, j'habite dans le Vexin, je suis avocat en droit de la santé en dommages corporels. C'est-à-dire que j'interviens dans la défense des victimes d'erreurs médicales, d'agressions, d'accidents de la circulation. Donc la semaine dernière, par exemple, j'ai plaidé dans le dossier du Bataclan pour des victimes. Donc pour expliquer un petit peu ce que je fais, donc l'humain, je connais. Et c'est ce qui me motive notamment dans cette candidature. Alors comment j'en arrive à me présenter? En fait, dans la profession d'avocat, j'ai exercé des fonctions politiques. Je me suis engagée dès ma prestation de serment et j'ai présidé le plus gros syndicat d'avocats de France qui regroupe les avocats de moins de 40 ans avec l'impossibilité de se présenter pour un deuxième mandat. Donc j'avais qu'un tour de piste, donc j'ai pas pu me louper et il fallait recueillir les enjeux du terrain des 180 barreaux pour ensuite aller porter les messages et négocier des choses à la chancellerie ou à Bercy. Et donc ce goût-là, je l'ai gardé. Ensuite, j'ai été au Conseil de l'Ordre et au Conseil National des Barreaux pour revenir à quelque chose de national. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous quand on se présente à des élections. C'est vraiment ce besoin de faire des choses pour les autres. Donc pourquoi la candidature? Tout simplement parce que quand j'ai emménagé dans le Vexin il y a quelques années, c'était avant la crise de la Covid, et j'ai constaté ce qui allait, ce qui allait pas. Et moi, quand quelque chose ne va pas, je m'en saisis.
J'avais envie de réagir.
Voilà, exactement. C'était plus fort que moi. Donc c'était la santé, c'était les transports, et donc assez naturellement, j'ai proposé ma candidature à La République en Marche dans le cadre de cette élection, ma candidature qui a été retenue. Donc voilà pour ma motivation concrète sur cette élection. Oui, c'est ma première candidature dans une élection nationale, mais en revanche, j'ai déjà exercé des fonctions politiques et des mandats. Donc il y a quand même quelques points qui se ressemblent.
Vous êtes une femme de terrain. Émilie Chandler, quand les résultats sont tombés dimanche soir, vous avez peut-être été déçue de n'être qu'en deuxième position?
Alors pour moi, l'enjeu, c'était d'être au deuxième tour.
Oui,
voilà.
D'accord.
C'était mon enjeu, parce que dans la première circonscription, on a quand même un autre enjeu qui est celui du score du Rassemblement National qui est très très élevé. Donc c'est une réalité qu'il faut avoir en tête et c'est à mon sens quelque chose qu'il faudra travailler. Il faudra à mon sens faire de la pédagogie sur le terrain parce que aujourd'hui on a des votes qui s'orientent de plus en plus vers les extrêmes avec un désintérêt pour la politique et il y a peut-être aussi un sujet de confiance. Alors j'ai bien aimé monsieur Dufoyer, votre phrase finale qui était de dire choisissez bien vos candidats et optez pour celui en qui vous avez le plus confiance. J'aurais pu le dire moi-même. Depuis le début de la campagne, je suis sur le terrain, je rencontre plein de gens et j'essaye de tisser ce lien de confiance et ce lien direct qui est en fait ce qu'on attend, à mon sens, hein, du député. Donc, quand on a eu les résultats, moi, mon enjeu, c'était d'être au deuxième tour. Maintenant, cette semaine, on est de nouveau sur le terrain. On est sur les problématiques du programme, on les connaît. Maintenant, il faut aussi expliquer quel est l'enjeu de dimanche, c'est-à-dire des valeurs qui s'opposent. Et moi, j'invite surtout les habitants à lire les programmes. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on entend, il y a ce qui est relayé par la presse et il y a ce qui est écrit noir sur blanc dans les programmes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un réel danger pour la démocratie.
Oui, vous le disiez, il y a les extrêmes montent de plus en plus. Justement, on sent beaucoup de virulence hein, dans cette campagne, et notamment au lendemain des élections, il y a eu une vraie contestation hein, d'un parti entre rapport aux résultats. Qu'est-ce qu'elle raconte cette contestation? Et puis, est-ce que vous, ça a changé votre dynamique dans la campagne du deuxième tour?
Alors, cette contestation, elle est pas très surprenante. Hein. Il y a beaucoup, on va pas se cacher derrière son petit doigt, il y a beaucoup de violence dans cette campagne.
Ouais.
Moi, par exemple, le jour où j'ai annoncé ma candidature, je me suis faite pirater mes réseaux sociaux, mon portable, ma boîte mail, et on a inséré des images pornographiques sur mes réseaux sociaux. Bon, la violence, c'est aussi ouais, ça. C'est à l'image des partis, des candidats, de la politique. Donc moi, j'ai pas réagi. On voit nos affiches qui sont déchirées. Bon, je rappelle quand même que arracher des affiches sur les panneaux d'affichage public, c'est pénal. Hein,
oui,
c'est une infraction. Donc ça, je le rappelle. Et assez curieusement, quand je repasse, mon affiche n'est plus décollée. Donc la violence, c'est aussi ça. La contestation, c'est aussi ça. Et ce qui s'est produit le soir des résultats, c'est que il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées sur le terrain qui se manifestaient pas comme mobilisées, c'est-à-dire qu'ils m'avaient rencontrée, j'avais réussi à les convaincre, et là, qui m'ont contactée, qui m'ont dit non mais nous, on veut se mobiliser avec vous cette dernière semaine, et donc c'est vraiment un réel plaisir. On sent qu'il y a un mouvement qui se met en place, et donc ça nous pousse en ce dernier jour de campagne à tout donner. C'est vrai que c'est le contact, expliquer les choses, expliquer les programmes et expliquer le risque et les enjeux. Donc nous, c'est l'énergie et ce mouvement qui je crois et qu'on retrouve dans d'autres circonscriptions.
Oui, ces résultats ont été un catalyseur. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que ces gens-là n'aient peut-être pas forcément voté au premier tour. Mais bon, on en reparlera. Donc, les priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat, l'emploi, la sécurité. Ça fait partie de votre programme.
Alors, comme vous le savez, le député, il agit à deux niveaux.
Oui.
C'est au niveau du législatif et au niveau du terrain.
Oui.
Donc, moi, j'ai
du local et du national.
Le local, nous, on a évidemment un enjeu de pouvoir d'achat, un enjeu de santé, un enjeu de transport. Ensuite, au niveau national, bon, ces sujets-là, il va falloir les porter au national, parce qu'à un moment, les déserts médicaux, mais je ne vais pas m'égarer, les déserts médicaux, il va falloir trouver des solutions. Donc, ça sera la deuxième loi après la loi pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, nous, on est sur la valeur travail. On est sur vraiment on se sortira de la crise par le plein emploi hein, qui est un objectif et pas par 100 milliards d'impôts qui sont annoncés par ma concurrence, 100 milliards d'euros qui seraient prélevés sur les entreprises et sur les ménages. C'est énorme. Voilà, nous, notre idée, c'est d'encourager les Français
la valeur travail,
à travailler, la valeur travail, la transmettre, et ça, dès le plus jeune âge, puisque vous avez vu que sur 2021, on a réussi à faire signer 700 000 contrats d'apprentissage, c'était 321 000 il y a encore peu de temps. Bon, ça commence comme ça, c'est-à-dire faire de l'apprentissage une voie d'excellence et maintenir les emplois. Je rappelle quand même que pendant la crise de la Covid, le quoi qu'il en coûte a permis de préserver quasiment tous les emplois. Donc, au niveau des entreprises, il y a des vraies conséquences. Pardon, je suis bavarde.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, c'est vrai que le temps est un petit peu court, mais bon, ce que je voulais vous dire, on en a parlé également, la grande gagnante de ces élections, ça reste quand même l'abstention, avec près de 53%. Comment faire revenir aux urnes toutes ces personnes qui boudent?
Alors pour dimanche, moi je compte sur l'intelligence des Français. Je pense vraiment qu'il faut leur expliquer. Et cette semaine, de toute façon, la presse s'en est chargée. Les Français sont intelligents, ils vont comprendre que le risque est grave, que les enjeux sont extrêmement importants. Et donc j'espère qu'ils vont se mobiliser. Après sur le moyen terme, il y a de toute façon, à mon sens, de la pédagogie à faire et aussi de la proximité à avoir entre les politiques, en tout cas les députés et les communes et les présidents d'associations et les habitants. Il y a vraiment cette proximité à travailler, ce lien de confiance à renforcer, parce qu'aujourd'hui je pense que l'abstention, c'est aussi un problème de confiance envers la politique. Moi je dis toujours le problème de l'abstention, c'est que vous vous abstenez, c'est pas un vote contestataire, c'est simplement vous laissez les clés de la maison, vous laissez la caravane, vous laissez votre chien, vous laissez tout. Donc c'est très dangereux l'abstention, mais ça il faut l'expliquer. Il faut expliquer que ça n'est pas neutre de rester chez soi un jour d'élection.
Merci Émilie Chandler, c'est très clair et précis. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose?
Je pense qu'on a fait le tour et je vois que le temps tourne, donc de toute façon je ne voudrais surtout pas dépasser
le temps imparti.
Les règles sont les règles.
Oui, mais j'ai compté, vous n'avez pas dépassé. Alors ma dernière question que je pose à tous les candidats, moi Jacqueline Voraz, si j'étais électrice de votre circonscription, pourquoi devrais-je voter pour vous?
Parce que je suis la candidate de la majorité présidentielle et que si vous voulez que la circonscription ne tombe pas dans un immobilisme pendant 5 ans, il faut nous donner les moyens d'agir, parce que si vous votez pour la concurrence qui est contre tout systématiquement, il se passera rien. On pourra pas travailler sur le rayonnement économique, on pourra travailler sur rien. Donc si vous voulez l'action, choisissez ma candidature et mon bulletin de vote.
Merci beaucoup Émilie Chandler, candidate officielle de la majorité présidentielle, qualifiée au second tour dans la première circonscription du Val-d'Oise avec pour suppléant François Ernst. Un second tour qui, je le rappelle, a lieu après-demain, dimanche 19 juin. Nos auditrices et auditeurs et vous, Émilie Chandler, pourrez retrouver votre interview dans son podcast mis en ligne sur notre site idfm98.fr. Je vous invite à rester avec nous pour le reste de l'émission.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. On marque une pause. À tout de suite.
IDFM 98FM.
Kate Bush, Running Up That Hill. Christophe me précise que c'est un morceau qui est depuis quelques jours numéro 2 en France et qui est le plus téléchargé ou chazamé depuis quelques jours. Merci Christophe pour cette précision. Vous écoutez l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr. Je suis toujours en compagnie de Émilie Chandler, candidate officielle de la majorité présidentielle et qualifiée pour le second tour dans la première circonscription du Val-d'Oise et dont j'ai dit qu'il y avait Lille Adam, mais Émilie Chandler m'a précisé que ce n'était pas le cas. Donc désolée pour cette bêtise. Et puis je suis toujours en compagnie de Bertrand Dufoyer, consultant en management de transition actuariale, adjoint au maire de Deuil-la-Barre, section finances et affaires scolaires depuis 2020, et Christophe Cusin, donc président du club sportif Les Jokers, l'équipe de hockey club de Cergy-Pontoise, donc comme je l'ai dit aussi, une équipe pleine de promesses. Donc rebonjour Christophe et merci vraiment d'être à nos côtés. Christophe, je vous avais reçu il y a tout juste un an, je crois que c'était en juin 2021. Nous avions fait connaissance. Depuis, vous m'avez invité. Je suis venue plusieurs fois voir des matchs de hockey. J'ai adoré. C'était extraordinaire. Surtout qu'en plus, les Jokers ont chaque fois gagné. Donc, c'était formidable.
On avait fait l'effort, oui.
Ouais. Donc, Christophe, vous êtes en poste depuis plusieurs années pour accompagner la professionnalisation du HCCP par une structuration de son développement tant au point de vue organisationnel, j'ai toujours des mots comme ça compliqués à dire, financier que marketing et communication, c'est ça Christophe?
Oui, alors.
Désolée pour mon bafouillage.
Non, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, moi, je suis au club depuis maintenant presque 10 ans.
Oui.
Quand on n'était pas encore arrivé à l'Arenais, j'avais été recruté à l'époque par le président Gilles Fec dans cette perspective-là. Et en l'espace de 10 ans, on est monté de 3 niveaux sportifs. On joue maintenant au plus haut niveau français. On est devenu professionnel. On est devenu aussi le premier club de France en nombre de licenciés hockey sur glace. On a développé toute une filière de formation où on utilise vraiment le sport et le sport de haut niveau, de compétition, comme un levier éducatif auprès des jeunes. On a un peu plus de 60 enfants en sport-études, c'est pas exactement l'appellation, mais donc du la 6e à la terminale. On est un des 8 pôles espoir de France masculin. Accessoirement, mais c'est pas si accessoire que ça, mais dans son histoire, le club a aussi est un précurseur dans la pratique féminine de hockey.
Oui, absolument.
On a même eu le titre honorifique décerné par la Fédé de club bâtisseur sur ce sujet-là, et on a 18 titres de championne de France. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près un budget de 400 000 euros. Aujourd'hui, on est en cumulé, on dépasse les 2 millions. Et parce que c'est le code du sport qui le veut et la Fédé, on a l'association, le Hockey Club de Cergy-Pontoise, a créé donc une société sportive.
D'accord.
Les Jokers SAS. Et donc moi, je suis passé de directeur général de l'association à la présidence et la direction générale de la structure pro. Et autant l'année dernière, vous m'aviez accueilli en tant que DG, là,
d'accord,
je suis PDG. Et on a donc l'activité professionnelle, donc qui accueille principalement l'équipe qui joue en Ligue Magnus, et donc maintenant régie par une SAS. Mais avec une structure capitalistique où on a voulu absolument préserver notre ADN associative,
oui,
puisque l'actionnaire de référence principal, pas majoritaire, c'est l'association avec 31%.
C'est ça, vous souhaitez vraiment rester majoritaire, c'est-à-dire vous...
Pas majoritaire.
Pas majoritaire, hein. Mais en tout cas, voilà. Oui, absolument.
Mais où l'association reste présente fortement, à côté de quelques chefs d'entreprise, et puis tout un nombre important de supporters, puisqu'on avait ouvert il y a un an le capital, en partant de 50 euros. Et donc on a eu, on a à peu près, je ne sais plus exactement le nombre, mais autour de 80 actionnaires.
Oui.
Allant de 50 euros à, en fait, le plus gros, c'est l'association, puisque ça représente à peu près 80 000 euros.
Très bien. Alors, les Jokers, c'est Hockey Club de Cergy Pontoise, c'est une équipe officielle très soutenue par la ville, hein, vous l'avez dit.
Par la communauté d'agglos, pour
c'est
être
ça,
très précis.
Par la communauté, oui.
Et le département.
Et le département, d'accord, on va oublier personne.
Non.
L'agglo et le département. Et vous jouez dans le Val d'Oise à l'Arena Ice, mm-hmm. un lieu magnifique pour les Jokers.
Tout à fait, un lieu qu'on anime à peu près 30 fois par an. Où on arrive, cette année on est arrivé à accueillir un peu plus de 50 000 personnes en phase finale, puisqu'on a on a perdu en demi-finale du championnat de France, hein, on finit quatrième cette saison.
Oui, oui.
On a dépassé les 2500 spectateurs de moyenne, pardon. Et effectivement, c'est d'ailleurs un de nos rôles, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Une équipe de sport professionnel n'est pas là pour enrichir des actionnaires X ou Y. Elle est d'abord là pour dynamiser son territoire, contribuer à l'animation et à valoriser le dit territoire et ses habitants.
Je voulais poser la question à Émilie Chandler et Bertrand Defoyer si vous aviez assisté à un match de hockey sur glace. Émilie?
Alors, j'ai pas eu l'occasion, mais en famille, ça nous est arrivé de faire du curling.
Ah oui.
Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais non, je suis pas une grande sportive, donc.
Mais je vous invite vraiment à aller voir les Jokers parce que c'est extraordinaire.
J'irai avec plaisir.
Et puis l'ambiance sur le lieu, c'est extraordinaire aussi. Et vous, Bertrand Defoyer, vous avez déjà vu un match?
Quelle question délicate. Ça me rappelle d'excellents souvenirs, et les Deuillois s'associeront à ce souvenir. Voilà.
Bon, d'accord. On n'en dit pas plus. Alors,
mais vous êtes tous les deux invités, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections.
Avec plaisir.
Alors pour ma part, le résultat des élections ne va pas changer.
Bon.
Christophe, donc je voulais aussi dire un mot peut-être de votre, parce qu'une équipe c'est aussi un entraîneur.
Tout à fait.
Je voulais dire quelques mots de Jonathan Paredes, qui a été récompensé par le titre de meilleur coach de Synerglas League Magnus. Et vous avez eu d'ailleurs, il a été invité à Bonsoir Île-de-France dans l'émission BFM Paris Île-de-France.
Oui.
Donc quelques mots sur Jonathan. Jonathan?
Oui, Jonathan, en fait, on travaille ensemble depuis maintenant 5 ans. C'est un jeune entraîneur au sens il vient d'avoir 40 ans. Ce profil d'entraîneur qui, en fait, a été joueur, mais n'a pas poussé sa carrière de joueur professionnel, a très très vite fait le choix du coaching, et c'est un fou furieux de travail, d'exigence, et ce dont on se rend rarement compte, c'est que le sport de haut niveau, c'est une somme de détails, c'est en permanence se remettre en question, c'est adorer résoudre les problèmes que le quotidien nous pose. C'est pas tant chercher à être meilleur, c'est pas tant chercher à être le meilleur, c'est chercher à progresser, à toujours faire
tout
mieux.
Tout le temps.
Tout le temps. Et j'avoue que là, les deux années de Covid nous ont vraiment mis à l'épreuve, très très lourdement, psychiquement parlant.
Oui, oui, vous en aviez parlé longuement, mais vous pouvez en redire un mot cette année.
Et d'une certaine façon, cette année, on a, d'ailleurs c'est la leçon qu'on tire, à faire défaire des plannings en permanence, à garder mobilisé une équipe de pros qui peut pas s'entraîner ou qui s'entraîne, où on change tout le temps les plannings, alors que dans le sport de haut niveau, on a besoin de construire
une routine. Une stabilité.
Il faut un certain nombre de choses pour qu'ils puissent s'engager pleinement. Il faut par ailleurs donner un cadre le plus stable possible. Contrairement aux acteurs du monde de la culture, nous, pendant un an, on a dû jouer devant personne.
Oui.
Ça a été très, très compliqué aussi. D'ailleurs, le retour en début de saison était un peu compliqué puisque toutes les habitudes de communication avec du bruit, etc., étaient perdues. Voilà. Mais pour revenir à Jonathan, c'est un passionné et puis il a une vision moderne du hockey, c'est-à-dire un sport très engagé, s'appuyant sur la vitesse. Alors, comme c'est déjà le sport le sport collectif le plus rapide au monde, en plus, quand il fait jouer son équipe très vite, ça renforce le côté spectaculaire du match. Ça fait soulever les foules.
Ah oui, ça, on vibre vraiment.
Et juste pour finir,
oui.
Et il y a une dimension chez lui de formation. Il n'aime que de pouvoir relancer un joueur.
Il est développer un jeune. Altruiste, c'est-à-dire il pense à l'autre avant de penser à lui.
Et souvent il s'oublie et plus le Covid, ça a été parfois un peu compliqué.
Oui. D'où probablement les bons résultats que vous avez engrangés. Je voulais dire d'ailleurs, vous avez dit que vous avez perdu contre l'équipe de France, mais d'une façon très honorable, puisque vous êtes allé en play-off. Donc je vous laisse nous expliquer ce que c'est.
Oui, alors, en hockey, c'est comme en basket, et même en rugby d'ailleurs. Il y a deux temps dans un championnat, dans une saison. Il y a le temps de la saison régulière. Il y a un calendrier, tout le monde se rencontre, en l'occurrence deux fois chez soi, deux fois à l'extérieur. En Magnus, on est 12 équipes, donc voilà, ça fait 44 matchs à faire en presque 6 mois et demi, donc c'est très intense, on joue 2 à 3 fois par semaine. Il y a à peu près un match par semaine à l'Arenais. Et puis, mais c'est le tour de chauffe. Le vrai championnat, c'est les play-offs. Où là, les 8 premiers de ce championnat vont se rencontrer un peu comme dans un tableau de tennis. Le premier va jouer le 8e, le 2e, le 7e. Et sachant que les 4 derniers de la saison régulière, eux, jouent les play-downs et le dernier devant descendre. Et pendant ces play-offs, donc on joue par élimination, quart, demi-finale. Et ça se fait au meilleur, c'est un peu compliqué, au meilleur des sept matchs, c'est-à-dire c'est l'équipe qui remporte 5 matchs qui passe. L'espace, ces 7 matchs-là se jouent en 10 jours.
Oui, c'est très dense.
Et donc nous, on est en demi-finale, on est tombé sur le futur champion de France qui est donc Grenoble. Qui a deux fois et demi notre budget, avec des internationaux, quoi. Rien à voir.
Oui.
Nous, je rappelle, notre deuxième saison en Ligue Magnus. C'était la première, puisque la première vraie avec 44 matchs. La précédente, on avait fait que la moitié des matchs, pour sous Covid. Et on est quand même arrivé à gagner un match on leur a pris un match à la maison et c'était notre titre de gloire. Indépendamment de ça, avec un peu de recul maintenant, même si on cultive l'humilité, je pense qu'il faut qu'on soit très 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 fiers de ce qu'on a fait cette saison, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Absolument, oui.
Demi-finaliste du championnat de France, 4e de la Ligue Magnus. Je crois que c'est très très bien.
Oui.
Et c'est malheureusement assez méconnu. Vous parliez de BFM. Pour passer sur les médias régionaux, Il faut avoir le titre de coach de l'année. Il faut être en demi-finale du championnat de France. En dehors de sinon, le Parisien s'intéresse pas à nous. Ah. Voilà. On a tout un travail pour casser une espèce de plafond de verre parce que on est en banlieue, on est au Val d'Oise, c'est-à-dire un des départements de fond de région. Et pour exister, alors on existe assez fortement sur notre territoire.
Oui, sur le territoire,
mais
vous êtes
régional,
très connu. Oui.
C'est pas encore ça. Alors que on joue au même niveau que le Paris Basket, que le Paris Volley, que le PSG Hand. Mm-hmm. On est dans la même élite. On est au plus haut niveau français.
Donc, un besoin de reconnaissance plus large. Christophe Cuzin, oui, je voulais dire pour ce match de play-off, c'est celui que j'avais vu, là, le premier match que vous avez gagné haut la main, d'ailleurs.
Hein, c'est rien que pour vous.
Merci, Christophe. Il faut que je vienne à chaque fois, donc.
Ah oui.
Absolument. Bon, je vous propose de faire une pause, puis après, on va parler de partenariat,
oui.
Christophe.
Avec
à tout de suite.
Moi, de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plais le coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
J'ai pas toujours été de la partie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Que nos caresses en mêlent l'espoir de notre sens. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer.
Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
IDFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct et je suis toujours en compagnie de Émilie Chandler, candidate officielle de la majorité présidentielle et qualifiée pour le second tour du vote qui aura lieu dimanche. Bertrand Dufoyer, maire adjoint à la ville de Deuil-la-Barre, et Christophe Cuzin, président de l'équipe des Jokers. Christophe, on a vu avec vous donc les exploits de votre équipe. L'année dernière, on avait parlé levée de fonds, donc qui a eu lieu puisque vous avez des nouveaux statuts. Hein, c'est la raison pour laquelle vous avez modifié vos statuts aussi. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même, alors avec un budget très conséquent, vous êtes toujours en recherche de partenaires.
Ah oui, en permanence.
Ouais.
En fait, nous, on a un projet de développement qui est construit à la fois sur donc l'animation du territoire, je le disais, sa valorisation. On essaye de représenter une certaine excellence à travers notre recherche de performance et l'exigence liée au haut niveau. On veut essayer de rendre fiers les habitants du territoire. Puis on veut aussi se servir de notre influence pour inspirer humblement à notre place. Mais je le disais, on a une ADN associative. On a un certain nombre de valeurs qu'on veut liées au sport collectif, et puis à nous-mêmes, qu'on veut essayer de défendre, et autour notamment de trois axes qui sont l'impact environnemental. Alors, à notre petit niveau, cette saison, les joueurs ont tous des voitures électriques. On a contribué à la reforestation. C'est un mot difficile.
Oui, aussi. ça m'arrange.
Voilà. Puisqu'on a financé 2000 arbres en forêt de Chantilly. Malheureusement, il n'y avait pas de projet dans le Val d'Oise qui nous a été proposé. Donc, le plus près, c'était Chantilly. Il y a un axe qui nous est vraiment très cher, quoi, qui est la solidarité. On travaille avec Culture du Cœur. On a été le premier club français à accueillir des Ukrainiens. On est aussi assez engagé dans des causes générales comme par exemple la lutte contre le cancer. Il y a un mouvement qui s'appelle Movember qui est en profit de la recherche contre le cancer masculin. Donc on fait un maillot spécial et on le vend aux enchères. On a toute une action avec au profit de l'hôpital de Pontoise. Je le disais tout à l'heure, on est très engagé pour utiliser le sport comme un levier éducatif fort et pas que un loisir.
Oui,
et même, ça n'est pas un loisir, c'est quelque chose de très sérieux. Là, j'en profite, j'ai deux élus ou futurs élus à mes côtés. Je trouve que le sport en France est vraiment un peu mal martyrisé et on s'en sert pas assez comme un levier de changement, de modification sociale. Voilà. Et donc tout ça, avec en plus l'ambition de jouer les premiers rôles, de remplir la patinoire en permanence, eh bien évidemment, nous, notre modèle économique, il repose fondamentalement sur la billetterie, donc le grand public, et le sponsoring et les hospitalités, autrement dit les VIP. Et donc on a besoin d'entreprises qui viennent s'associer à nous à travers la pose de leur logo sur le maillot, sur les panneaux, mais aussi à travers des opérations où ils vont exploiter notre image pour que ça apporte des financements. Alors, juste pour information, s'associer à notre image, c'est ça part de 1 500 euros,
oui,
jusqu'à, moi j'aimerais bien arriver à trouver dans notre modèle économique, si on arrivait à avoir deux gros partenaires, et quand je dis deux gros, c'est deux entreprises qui mettent entre 200 et 300 000 euros, c'est même pas un spot sur TF1, donc c'est beaucoup et pas beaucoup.
Dans notre structure de
chiffre d'affaires et de partenaires, ça nous permettrait vraiment de stabiliser tout le modèle, parce qu'aujourd'hui, il faut... on est des RMistes du sport pro, 1,7 million de budget, c'est même pas le basket, on fait avec des bouts de chandelle en permanence, donc faut qu'on essaye d'arriver à bien se stabiliser. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires, de sponsors, et sponsors au sens anglo-saxon, c'est soutien.
Oui.
Et derrière, en contrepartie, on a tout un système de valeurs à proposer, des animations, et puis un dispositif aussi d'hospitalité qu'on est en train de faire évoluer aussi pour permettre aux entreprises de travailler les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs clients et leurs prospects ou leurs salariés pour recevoir, non pas au Parc des Princes, mais à l'Arena Ice, autour de nos matchs, c'est garanti sur facture, vous l'avez vécu vous-même.
Oui, absolument.
Le chef d'entreprise qui invite ses clients va être fier de pouvoir recevoir ses clients, travailler la relation avec eux, et on sait tous en business qu'une relation qui dure, forte, c'est la garantie d'avoir, de sécuriser son chiffre d'affaires.
Écoutez, Christophe Cuzin, j'espère que vous aurez été entendu. Si on veut vous contacter, que faut-il faire, Christophe ?
M'appeler,
oui,
au 06 60 53 67 92 ou m'écrire christophe.cuzin, C-U-Z-I-N, @lesjokers.net. Joker, L-E-S-J-O-K-E-R-S. Il n'y a pas de C dans Joker.
Oui, c'est J-O-K-E-R-S. Des informations qui se retrouveront bien évidemment sur le podcast de l'émission. Nous disions pendant la dernière pause musicale que il faut profiter des chaleurs pour aller à l'Arena Ice parce que comme ça on a une enfin on est au frais.
Oui, alors je maîtrise pas le planning parce que là je ne dirige pas l'Arena Ice, mais je crois qu'il y a encore des séances publiques.
Oui.
Mais je parle sous réserve parce qu'il y a en ce moment l'organisation, le montage du spectacle.
Ah oui.
Carmen Street, et je ne sais plus exactement quelles sont les disponibilités. Mais
d'accord,
c'est vrai que la fraîcheur de l'Arena Ice, et indépendamment de ça, et je crois qu'au mois d'août par exemple, il sera possible de venir patiner en séance publique pendant le mois d'août, et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas déjà encore un oasis de fraîcheur.
Les prochains matchs des Jokers.
Voilà, nous on a la Summer Cup qui est un tournoi de préparation le week-end du 19, 20, 21 août où on recevra Rouen, quart de finaliste de la Coupe d'Europe, Amiens et Angers qui est vice-champion de France en titre.
Très bien, bah écoutez, on vous souhaite. Oui, Christophe, je vous en prie.
Le début du championnat, c'est le week-end du 10 septembre.
Bon, ben, on sera présent pour ces matchs de tour de chauffe, un petit peu, c'est ça?
Tout à fait.
Merci beaucoup, Christophe Cuzin, de nous avoir à nouveau mis en appétit pour cette équipe montante des Jokers.
Je l'espère.
Merci à vous. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre actualité, juste puisqu'on arrive à la fin de l'émission, mais encore un mot de conclusion. Chris Bertrand Dufoyer, un mot de conclusion.
Oui, merci Jacqueline. Tout simplement déjà faire un petit clin d'œil à Namia sur le Val d'Oise pour son combat qu'elle mène aussi pour être députée. Un petit clin d'œil à ma voisine de droite qui porte aussi avec Namia des valeurs humanistes qui sont essentielles. Dire tout simplement que pour rebondir sur ce que vous disiez, que le sport ça peut être associé à la santé, et je vous invite à interroger Michel Beau et Estelle Follès.
Oui.
qui travaillent sur ces sujets aujourd'hui. Et enfin vous dire que mon point de vue d'économiste par rapport à ce que dit Nupes concernant l'extinction de l'incendie de l'inflation, c'est une ineptie complète, qu'on vit dans un monde global et que c'est pas en tentant d'éteindre la cabane du jardin qu'on empêchera la maison de brûler.
Oui, très bien. Bah, c'est une belle image. Merci Bertrand Dufoyer pour cette conclusion. Émilie Chandler, quelques mots de conclusion.
Oui, merci. Alors, deux points. La première chose, c'est que j'ai bien noté le numéro de Monsieur Cuzin, hein, pour prendre des places et pour aller au match, pourquoi pas à la Summer Cup dès le 19 août. Et dire que moi, je partage votre avis sur le fait que le sport est un levier de d'égalité des chances, hein, mais c'est également une possibilité de transmettre des valeurs, et ça me parle parce que nous portons également cette manière de voir les choses, et rappeler aux auditeurs que dimanche se joue l'avenir de la France, et que ça n'est pas simplement élire le député de la circonscription, c'est aussi choisir d'immobiliser la France pendant 5 ans ou de permettre à notre président de poursuivre les chantiers qu'il a déjà commencé.
C'est ça, c'est donner une vraie majorité au président de la République. Un mot de conclusion, Chris. Merci, Émilie Chandler, pardon, parce que Christophe m'a fait passer un petit papier que je viens de lire. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Christophe Cuzin, un mot de conclusion.
Oui, alors juste dire qu'effectivement, être partenaire des Jokers, c'est s'associer au club, le seul club du Val d'Oise, oui, présent au hockey sur glace, mais surtout en sport co de la région Île-de-France, et c'est s'associer à des événements à chaque fois, un match, c'est un moment très très marquant. Et je voudrais juste finir en appelant chacun et chacune à aller voter dimanche.
Oui, c'est très important. Ce qu'on ressent lorsqu'on regarde un match de hockey, c'est que il y a cette pression autour des buts. On a l'angoisse, on ne sait pas où le but va arriver. Vraiment, c'est très éprouvant, je trouve.
Oui, c'est lié au fait que en fait, il y a quand même 10 joueurs, oui, les uns sur les autres, ou presque. Et surtout, c'est de la glace, donc ça va vite. Et le palais est tout petit. Et donc effectivement, il y a à la fois énormément de vitesse et de rapidité, oui, de vitesse, et puis d'engagement physique. Et donc c'est un cocktail qui est très très spectaculaire.
Très bien. Ben, en tout cas, vous l'aurez compris, je suis fan de hockey sur glace et n'hésitez pas à aller voir un match.
Merci beaucoup.
Merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre actualité, Émilie Chandler, Bertrand Dufoyer et Christophe Cuzin. Vous serez toujours les bienvenus, bien sûr, dans l'émission. Merci et Christophe pour la technique. Merci à vous tous qui nous suivez et pour votre fidélité. Donc le papier que m'a fait passer Christophe, c'est pour que je n'oublie pas de rappeler que c'était aussi la fête des papas dimanche. Donc voilà, n'oubliez pas votre papa ou... Voilà, c'est une fête importante. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment avec son podcast sur idfm98.fr. Dimanche, encore une fois, n'oubliez pas d'aller voter. Et moi, je vous retrouve mardi pour un nouveau numéro de l'économie en direct avec notre spéciale Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Belle journée, bon week-end et prenez soin de vous et de vos proches.
En Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.